La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet, je suis pasteur de l'Église Adventiste. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous une histoire qui nous montre que non seulement notre propre foi compte dans notre relation avec Dieu, mais aussi, et c'est peut-être plus étonnant, celle de ceux qui sont autour de nous et qui nous soutiennent. Nous trouvons cette histoire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2. Je lis les versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la maison. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivèrent lui amenant un paralysé porté par quatre d'entre eux, mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendirent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul peut le faire. » Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà une belle histoire avec une foule, une maison trouée, un paralysé guéri. Alors, explorons cette histoire en détail. Nous sommes dans le deuxième chapitre de l'Évangile de Marc. Juste avant, dans le premier chapitre, Marc a raconté comment Jésus a quitté Nazareth pour commencer son ministère à Capernaum. Cette ville, située sur les rives ouest du lac de Galilée, était un centre important de cette région prospère de la Galilée, avec une garnison romaine, un bureau de douane et une belle synagogue. C'est là que Jésus a recruté ses premiers disciples, Pierre et André, qui habitaient la ville. C'est là qu'il a fait les premiers miracles racontés par l'Évangile, en chassant un esprit mauvais d'un homme, puis en guérissant la belle-mère de Pierre. Dans ce premier chapitre, l'attitude de Jésus est paradoxale. D'un côté, il semble tout faire pour que le maximum de personnes entendent son message, et donc il commence par la synagogue. Mais dès qu'il y a un miracle, il essaye d'étouffer l'affaire comme s'il fallait éviter que ça s'ébruite. Il fait taire l'esprit mauvais qui veut révéler son identité. Il part de Capernaum en pleine nuit pour échapper à la foule qui le cherche. Et lorsqu'un lépreux lui demande de le guérir, Jésus le fait, mais il lui ordonne aussitôt de n'en parler à personne. C'est étonnant. Si Jésus avait été accompagné par une équipe de campagne électorale, on lui aurait certainement conseillé de surfer sur ces événements pour agrandir son audience. On lui aurait dit de faire des selfies avec les heureux guéris et de les poster sur les réseaux sociaux. Il y aurait eu toute une stratégie pour exploiter la popularité acquise grâce au miracle. Mais non. Jésus semble réticent. Il tente vainement de faire ses miracles en cachette. Quand ses disciples lui demandent pourquoi il agit comme ça, voilà ce qu'il répond au chapitre 1, le verset 38. « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Jésus dit lui-même que sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le problème du miracle, c'est que c'est très voyant, ce n'est pas le message. Les miracles de Jésus peuvent aussi rendre sourds et aveugles les foules avides de sensationnel, au point qu'elles n'entendent plus ce que Jésus veut leur dire. En effet, tout miracle apportera un soulagement, certes, mais ça sera passager et provisoire. Ça n'empêchera pas que les hommes s'infligent à nouveau du mal ou que l'on meure à la faim. Et donc Jésus veut s'attaquer à la racine du mal, et pas seulement à ses symptômes que sont les blessures et la maladie. Il ne veut pas que le soulagement passager du miracle empêche les gens de recevoir le soulagement éternel qu'il veut leur donner. Alors on va bien garder ce point à l'esprit parce qu'il est important pour éclairer l'histoire que nous explorons aujourd'hui. La fin du chapitre 1 nous dit que notre lépreux guéri n'a pas réussi à tourner sa langue. Et donc, je cite, « Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, il restait en dehors dans des endroits inhabités. Mais de partout, on venait à lui. » Alors, après avoir vainement tenté de maîtriser le phénomène, Jésus rentre à Capernaum. Le texte dit qu'il était à la maison. C'était peut-être chez Pierre et André, puisque c'est là qu'il l'avait été avant. Toujours est-il que, rebelote, dès que le bruit court qu'il est de retour, une foule de gens s'invite à la maison. Alors, on est au Moyen-Orient et l'hospitalité est sacrée. La maison est vite remplie au point que le texte nous dit qu'il ne reste même plus de place à l'extérieur devant la maison. Jésus reste fidèle à sa mission première et donc il leur annonce la parole. Et c'est à ce moment-là qu'un paralytique porté sur un brancard par quatre hommes arrive à la maison. Mais il y a trop de monde, impossible d'atteindre Jésus. Dans la scène décrite, Jésus est au centre de la maison. Il y a des religieux assis autour avec les disciples, puis la famille de Pierre et Jean assise ou debout, puis la foule debout, et les couchés restent dehors. Jésus est en train de prêcher l'amour du prochain à une foule, mais pas un ne s'écarte pour laisser passer les hommes et le paralyser. Les porteurs ne se laissent pas démonter, au contraire, ils choisissent de démonter le toit de la maison. Les maisons de Palestine étaient souvent constituées d'une seule grande pièce avec des murs faits d'un mélange de paille et de terre séchée. Les toits étaient faits de la même matière bourrée entre des poutres et formaient une terrasse sur laquelle il était possible de monter par un escalier extérieur. Les hommes portant le paralytique montent donc sur le toit et ils entreprennent de creuser un trou dans le torchis pour y faire descendre leur ami. Imaginez la scène. Jésus est en train de parler. Tout le monde est silencieux, puis on entend des bruits de raclement au plafond, puis de la terre et de la paille commencent à tomber sur eux. Des gens commencent à râler, d'autres se mettent à tousser alors que la pièce se remplit de poussière, bref, c'est un vrai Capharnaüm. La lumière du soleil commence à faire une percée et un trou s'agrandit de plus en plus jusqu'à la taille d'un homme couché. Enfin, l'assistance voit un brancard descendre avec une personne dessus jusque devant Jésus. Tout le monde secoue la terre et la paille qui lui est tombée dessus pendant que la famille pense sûrement aux dégâts du plafond. Là, ça dépasse les bornes. La réaction de Jésus est magnifique. Le verset 5 dit qu'en voyant leur foi, Jésus parle au paralytique et l'appelle « mon enfant ». C'est un terme affectueux. L'homme, mal dans son cœur et dans sa vie, reçoit un accueil bienveillant et favorable de la part de Jésus. Et voilà qu'il entend que ses péchés lui sont pardonnés. Alors on pourrait se demander pourquoi Jésus a commencé par ça. À l'évidence, cet homme n'est pas venu demander une absolution. Il veut être guéri. Ça doit lui faire une belle jambe. Il y a erreur de diagnostic. Mais on se souvient, l'objectif de Jésus n'est pas le miracle. Sa mission va bien plus loin. Alors cette fois, il commence par le principal. Parce qu'à la maladie, on ajoute souvent la culpabilité. Il y a le soupçon d'une punition divine pour des péchés cachés. Quand il y a un malheur, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal, alors il y a forcément un coupable. Et comme ça ne peut pas être Dieu, c'est forcément un humain. Si quelqu'un souffre, c'est quelque part qu'il l'a peut-être un peu cherché. Et le poids de cette culpabilité, eh bien ça paralyse. On n'a plus droit à rien, ni à l'estime de soi, ni à l'estime des autres. Alors on est paralysé comme cet homme immobile devant Jésus. Et là, c'est une révolution. Jésus casse le lien religieux entre la maladie et le péché. La maladie n'est plus une punition divine. Il n'y a plus à se sentir coupable dès qu'on est malade. Bien sûr, il peut y avoir un lien de conséquence entre un style de vie et une maladie, mais ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Jésus enlève le poids religieux de la maladie. La preuve, maintenant cet homme est pardonné, et pourtant il est toujours malade. Donc ce n'est pas lié. On peut être malade et en paix avec Dieu. Le vrai miracle de l'Évangile, c'est de libérer de la culpabilité et de l'angoisse des préjugés. Le paralysé avait peut-être fait le diagnostic de son problème et il le réduisait à sa maladie, mais Jésus s'adresse au véritable nœud qui le tenait prisonnier. Et on imagine le soulagement de l'homme. Plus de péché, plus de culpabilité. Il est pur, il vient de retrouver la dignité d'une créature divine à ses yeux et aux yeux du monde. Voilà la véritable mission de Jésus. Et pourtant, cette remise de pardon ne fait pas que des heureux. La parole de Jésus choque les responsables religieux. Quoi ? Cet homme insulte Dieu ? Personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. Voilà les pensées qui s'agitent dans leur tête. Alors il faut se mettre à la place de ces religieux. En pardonnant les péchés, Jésus faisait sauter tout ce qui comptait pour eux à ce moment-là. Parce que selon ce qu'ils connaissaient des Écritures, il y avait trois conditions pour être pardonné. Il fallait aller au temple de Jérusalem, il fallait amener un animal pour un sacrifice, et enfin, seul un prêtre pouvait accomplir cette procédure. Ici, aucune des conditions n'était réunie. On était dans une maison à Capernaum, il n'y avait pas de sacrifice et Jésus n'était pas un prêtre. Pourtant, par la suite, Jésus va remplir ces trois conditions. Il va montrer qu'il est, lui, le nouveau temple, qu'il fera le seul sacrifice nécessaire par sa propre vie et qu'ainsi, il deviendra le grand prêtre, l'intermédiaire avec Dieu. Par sa vie et son sacrifice, Jésus est celui par lequel nous recevons le véritable pardon. Mais bon, tout cela, les responsables religieux ne le voyaient pas encore. Pour eux, cette parole de Jésus, c'est un blasphème. Car ultimement, même au bout de la bonne procédure, seul Dieu est celui qui accède à la demande et pardonne les péchés. Pour qui se prend donc ce jeune rabbin ? Pour Dieu lui-même ? Plutôt que de partir dans une longue argumentation, Jésus va joindre le geste à la parole. Puisque le pardon, ça ne se voit pas, alors, pour leur montrer qu'il a bien l'autorité pour pardonner le péché, Jésus va aussi guérir le malade et accomplir donc quelque chose de visible. Les scribes et les disciples se sont peut-être alors rappelés cette parole de David dans le psaume 103. « Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Jésus invite donc cet homme qui était paralysé à se remettre en marche. Et l'homme se relève intérieurement et extérieurement. Le miracle devient un signe de quelque chose de plus large, de beaucoup plus profond. Le miracle n'est pas l'objectif, il pointe vers l'objectif. La guérison devient le signe du pardon. L'histoire raconte que l'homme est sorti aux yeux de tous. Celui qui avait eu du mal à rentrer doit maintenant se frayer un chemin dans la foule pour sortir. Et l'on comprend la joie qui explose tout autour. Oh, la guérison est possible! Mais surtout, le pardon est enfin accessible. Ce Jésus pouvait libérer du poids de la culpabilité qui paralyse. Si vous vous demandez comment pouvoir bénéficier de ce pardon, le mode d'emploi est simple. Si vous portez sur vos épaules ces poids qui vous écrasent, alors mettez-vous à genoux, présentez-vous à Jésus et demandez simplement pardon. Et croyez que sa parole est capable d'effacer tout péché et de vous transformer pour une nouvelle vie. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors bien sûr, le chemin vers Jésus peut être long et ardu. Il y a des obstacles comme cette maison, cette foule, ces responsables religieux. Ce sont autant de symboles de tout ce qui nous empêche d'accéder au Christ. Et c'est là que j'aimerais souligner le rôle des amis du paralysé dans cette histoire. Parce qu'il y a ceux qui font obstacle, mais il y a aussi ceux qui aident. Il y a quelques années, il m'est arrivé une expérience qui me semble bien illustrer ce principe. Avec mon épouse, nous venions d'emménager à Toulouse, et un jour j'ai commencé à avoir mal au ventre. Au début, j'ai pensé que c'était juste une mauvaise digestion, donc je n'ai rien fait et j'ai attendu que ça passe. Plusieurs jours. Non seulement ça ne passait pas, mais la douleur augmentait. Et un soir, j'avais tellement mal que je n'arrivais pas à dormir. Alors, à 3h du matin, je suis sorti pour me promener en espérant que ça me soulagerait. Mais non, j'avais de plus en plus mal. Finalement, j'ai réveillé ma femme et nous sommes allés aux urgences. Enfin, je devrais plutôt dire qu'elle m'a amené aux urgences. J'étais absolument incapable de conduire. Les examens à l'hôpital n'ont rien donné. On m'a renvoyé à la maison avec des antidouleurs. 2 jours de fièvre plus tard, je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a immédiatement envoyé faire des radios. Et le soir même, j'étais opéré en urgence d'une appendicite proche de la péritonite. Je me vois encore plié en deux sur la banquette arrière de la voiture pendant que ma femme me conduit à l'hôpital. Je n'aurais pas pu y aller tout seul, j'avais trop mal. C'est quelqu'un d'autre qui a dû m'amener là où je serais soigné, parce que j'étais trop malade pour m'y rendre par mes propres moyens. Spirituellement, c'est la même chose. Des fois, nous sommes trop faibles pour aller plus loin, et on a besoin d'autres personnes pour nous porter. Un détail intéressant que nous constatons dans l'histoire du paralytique, c'est qu'à aucun moment il ne parle. Il ne fait rien non plus. Rien d'étonnant à cela, c'est la définition même de la paralysie, ne pas pouvoir agir. Tout le long, le malade est porté par d'autres sur un brancard. Il dépend de la bonne volonté d'amis pour l'amener. Et ce n'est pas simple d'être celui qui est porté, celui qui dépend des autres. Dans nos malheurs, nous pouvons être tentés d'essayer de nous en sortir tout seuls, mais force est de constater que cela nous isole et ça ne fait qu'empirer les choses. Il nous faut rendre les armes et accepter que nous avons besoin d'une aide extérieure à nous-mêmes. Juste après, au verset 17, Jésus affirme ainsi à ceux qui lui reprochent de passer trop de temps avec des bras cassés. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Spirituellement, nous sommes parfois comme une personne malade qui attendrait de guérir pour se présenter au médecin. C'est un non-sens. Et pourtant, combien de fois hésitons-nous à nous rendre devant Dieu pour qu'il nous donne son pardon et nous transforme ? Jésus a montré que Dieu n'attend que ça. Mais parfois, toute notre bonne volonté ne suffit pas. Il peut nous arriver d'être paralysés moralement et spirituellement. Alors quand on n'a pas la force, quand on aimerait avoir la foi mais qu'elle est vacillante, c'est là que la foi et la force des autres peut nous amener à Jésus. Remarquons ce petit mot que nous trouvons au verset 5. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est exactement la même phrase dans les 3 évangiles, ce qui est suffisamment rare pour être remarqué. Il n'est pas dit que Jésus a vu la foi du paralysé. C'est leur foi que Jésus remarque au pluriel. Ça ne dit pas si la foi du paralysé est incluse dans ce groupe, mais ça parle certainement de la foi de ces personnes qui ont porté l'homme sur un brancard et sont allées jusqu'à faire un trou dans le toit pour le présenter à Jésus. Pour Jésus, la foi des porteurs semble avoir fait la différence. Mais comment ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont obtenu le droit de voir leur ami guéri, qu'ils l'ont mérité grâce à leur foi ? Je ne suis pas sûr. Sinon, que se passe-t-il lorsqu'on prie avec foi pour la guérison de quelqu'un et que la personne ne guérit pas ? Est-ce qu'on a manqué de foi ? Et Dieu serait-il indifférent à ceux qui n'ont personne pour prier pour eux ? Je crois plutôt que Jésus a vu la foi qui a motivé ces hommes à porter leur ami devant lui. C'est cet amour et cette motivation que Jésus a vu. Contrairement aux responsables religieux critiques et incrédules, eux avaient reconnu ce que Jésus pouvait faire pour leur ami. Cette foi et cet amour apparaissent à travers beaucoup de signes que ce geste démontre. Premièrement, la foi agissante, c'est celle qui ne se laisse pas décourager par les obstacles. Face à la foule, ces hommes sont restés déterminés par leur amour pour le paralysé et leur foi en Jésus. Béni soient ces personnes autour de nous qui ne se laissent pas décourager pour nous amener à Dieu. Quand ils voient une porte fermée, ils creusent un trou dans le mur. Et puis, ces hommes ne se sont pas contentés de prier ou d'espérer. Ils ont agi. Ils ont remué ciel et terre, ou en tout cas un toit entre les deux pour aider leur ami. La foi se voit dans les gestes, dans l'engagement, dans le concret. Et puis, plutôt qu'un malade qui demanderait une bénédiction pour lui-même, voilà des hommes qui demandaient pour un autre. Ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes, mais sur le don envers leur ami. Enfin, ces hommes ont agi dans l'unité. Ils se sont mis d'accord ensemble pour agir. Et ça, c'est un autre signe que l'amour est présent. C'est sûrement tout cela que Jésus a vu dans leur cœur au point que tous les évangiles mentionnent la foi de ses porteurs. Leur action a permis le relèvement du malade. L'objectif n'était pas que les amis continuent à le porter pour qu'il reste dépendant d'eux. Non, grâce à Jésus, il a retrouvé sa dignité d'homme pardonné et Jésus l'a invité à se lever, à se mettre à l'œuvre à son tour comme ses amis l'ont fait pour lui. Alors aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Peut-être sommes-nous en ce moment à la place du paralysé. Nous n'avons pas la force pour nous tourner vers Dieu. Alors, laissons-nous porter par ceux qui ont la foi quand nous sommes dans le doute. Osons appeler à l'aide. Osons nous tourner vers d'autres pour être portés vers Jésus. Dieu ne nous le reprochera pas. Au contraire, il honorera ce mouvement. Mais peut-être sommes-nous dans la position d'un de ces porteurs. Il y a autour de nous des personnes qui n'ont pas la force de se tourner vers Dieu. Ils ne croient peut-être même pas en lui. Alors nous pouvons nous décentrer de nous-mêmes et agir en leur faveur, dans l'unité avec d'autres, sans nous laisser décourager par les obstacles. Et puis, une dernière chose. Dieu ne nous demande pas d'être capables de guérir ou de relever ceux que nous essayons d'aider. Notre rôle consiste juste à les porter devant Jésus. Et après, c'est une affaire entre eux. C'est là qu'il y aura relèvement et guérison. Amen.
Car Dieu nous vit à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens. Car Dieu nous vit à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun
là où se trouve l'offense, nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, nous mettions la vérité. Là où paississent les ténèbres, nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, nos façons chanter la joie. Là où s'attarde le doute, nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, nous apportions l'espérance. Donne-nous de consoler, plutôt que d'être consolé. Donne-nous de comprendre, plus souvent que d'être compris. Car il faut savoir donner, pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier, pour pouvoir se retrouver. Seigneur.
Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Par une chaîne d'amour.